Chapitre 28. La visite de Clémence, venue finalement sans son amoureux, ranima les questions et les commentaires des villageois. Une chance qu'elle a retrouvé la raison. Je me demande si elle a laissé son grand noir. Sais-tu si la petite Gérard fréquente encore son étranger? Jacquelin avait été bien satisfait de l'arrivée de sa cadette sans Sylvestre Ballant. Après avoir été mis au courant de la venue de cet homme dans le temps des fêtes, le curé avait téléphoné à Rimouski pour aviser sa sœur cadette de son désaccord. Clémence l'avait écouté sans répondre et avait raccroché en se félicitant de nouveau de sa vie à Rimouski. « C'est pas de ses affaires », avait songé la jeune femme. Convaincue d'avoir fait son devoir de frère aîné, Jacquelin avait informé Madeleine qu'à son avis, Clémence voulait juste les provoquer de nouveau. « C'est pas assez de s'en aller vivre seul à Rimouski. Voilà que ta sœur a amené un homme de ce genre au village. Je suis bien heureux qu'elle ait retrouvé ses esprits. » Peu intéressée à commenter les faits et gestes de sa cadette, Madeleine avait changé de sujet. Un début de mois de mai plus doux que d'habitude permit aux hommes de démarrer la saison de la pêche. Freddy et Émile, qui vivaient à présent dans une chambre louée par la compagnie Robin, tendaient leurs filets à l'aube afin de récolter les harengs qui leur serviraient de bouette pour une grande partie de l'été. La période de frais du petit poisson gris avait commencé depuis peu dans la baie, et à la surface de l'eau, les villageois observaient de vastes taches blanchâtres composées d'œufs et de laitances. Même si Freddy rêvait de construire sa propre barge, ses maigres économies étaient loin de suffire. Quand Tom s'était informé sur un ton neutre de son intérêt à reformer leur équipe, il avait aussitôt répondu « Oui, oui, je vois pas comment je ferais vivre ma famille sinon. T'as des terres que tu pourrais faire fructifier si ça te tente plus de venir en mer. C'est pas moi qui vais te forcer. » avait répliqué sèchement son beau-frère, découragé de savoir qu'il ne pourrait jamais se défaire de cette obligation exigée par son beau-père dans son testament. « Tu sais bien que je suis un pêcheur, pas un agriculteur. » Les hommes du village profitèrent de belles journées printanières pour préparer les barges pour la saison qui s'annonçait. Ils insérèrent de l'étoupe entre les planches de la barge pour la calfeutrer au maximum. Ensuite, avec un mélange de brais et de résine qu'ils avaient fait bouillir, Tom et Freddy s'adonnèrent au flambage de la barge. Freddy tenait un long bâton au bout duquel il avait fixé un chiffon. Avec vigueur, l'homme enduisait les joints de la coque de son mélange résineux. Après un long travail minutieux, il déposa ses outils pour se tourner vers son beau-frère. « Comme une neuve !» s'exclama-t-il. Puis, un bon matin, Freddy s'offrit pour aller chercher de la peinture afin de recouvrir la partie du bateau qui émergeait de l'eau. Tom acquiesça distraitement, peu intéressé par cette tâche. Quant à lui, son bateau pouvait bien rester au naturel. « C'est quoi cette couleur-là ? » grogna-t-il pourtant quand son beau-frère s'approcha de lui, son pinceau enduit d'un orange éclatant à la main. « Rosalie m'a dit que c'est tout ce qui restait. » mentit Freddy, à qui la jeune femme avait aussi proposé du rouge ou du blanc. Faisant la moue, Tom haussa les épaules, prenant les autres pêcheurs comme témoins. Les hommes goguenards levèrent la tête en riant, sans cesser leur ouvrage. « Ça va être facile de vous reconnaître ?» ricana Bourbeau. « Même les mouettes vont savoir où aller !» rajouta le mari de Valentine Dumont. Embêté par les moqueries, Freddy courba le cou pour commencer son travail en maugréant tout bas. Pas moyen de se distinguer sans faire rire de soi. Tom s'approcha, les mains sur les hanches, une moue désapprobatrice sur son visage à présent couvert d'une mince barbe blonde. « J'aurais préféré une couleur plus habituelle !» précisa-t-il sèchement. « C'est la vie !» marmonna Freddy. « Si je peux pas être maître d'une barge, au moins je vais mettre celle-ci à mon goût », songea-t-il égoïstement. Sans plus un mot, Tom s'éloigna en levant les yeux au ciel. De toute manière, il avait d'autres chats à fouetter avant le début officiel de la saison. C'est le cœur rempli d'allégresse que les citoyens de Lens à la Joie virent la saison se mettre en branle un matin de mai à l'aube. La plupart de ceux-ci se trouvaient sur la grave, malgré le fait qu'il ne soit que 6 heures. Les pêcheurs, eux, arrivés depuis presque 2 heures, n'attendaient que le moment de s'éloigner vers le large. L'atmosphère était effervescente et les hommes transportaient leur gréement d'un pas leste. Même Palmyre se trouvait sur place, appuyé contre son ami Rosario qui l'accompagnait avec bonne humeur. J'ai jamais manqué l'ouverture de la saison. C'est pas cette année que je vais commencer. » avait-elle martelé lorsque Madeleine lui avait suggéré de rester à la maison pour éviter de se fatiguer. Alors, à 5h30, Rosario avait attelé la carriole de son gendre et était arrêté chercher sa vieille amie. Sur le quai était disposée une rangée d'étals qui accueillerait les morues au retour des pêcheurs. Émile et les petits gingras démêlaient un amoncellement de filets en criant aux plus petits de cesser de courir autour d'eux. Omer Veillette, la pipe coincée entre les lèvres, installa sa palangre tout près d'eux et entreprit de vérifier les hameçons qui s'y trouvaient. « Pas eu le temps de faire ça avant, bon Dieu, » grogna Omer. « Je vais être obligé de partir en mer après tout le monde. Géraldine va encore m'accuser d'être un bon à rien. Toujours pas de ma faute si j'ai eu des reflux gastriques toute la semaine. Le vieux Thomas m'attendra pas toute la journée. Il m'a dit que si à 7h j'étais pas prêt, il partirait sans moi. » Le front plissé, Émile délaissa le filet qu'il tenait pour s'approcher de l'homme au visage grêlé. Toujours prêt à donner un coup de main, il entreprit de dégager les appos, tout en s'assurant de superviser les jeunes garçons. Omer en profita aussitôt pour prendre une pause, appuyé à la paroi de bois près du quai. « Me semble qu'on ferait une bonne équipe, nous deux, le jeune. Je te le répète, je m'endetterais pour acheter une barge si tu venais dessus avec moi. Émile jeta un regard hésitant vers le mari de Géraldine. Même s'il avait tendance à voir le bon chez les gens, le jeune homme n'arrivait pas à cerner cet homme. On le décrivait comme lâche, paresseux, menteur, mais pourtant, chaque fois qu'il lui parlait, Omer le charmait avec ses compliments et son humour. Puis, il faut dire que l'idée d'être second sur un bateau, tout l'été, lui plaisait vraiment plus que de rester à terre. Mais comme il allait répondre, la barge de Tom et Freddy arriva près du quai. « Bon !» cria le second. « On part, Émile. Bonne journée !»«
Bonne journée !»
répondit le costaud blond en retenant sa grimace de dépit. Il avait bien espéré se trouver une place sur une barge pour la saison 1935. Mais à force de persuasion, Freddy l'avait fait changer d'idée. « Tu feras bien ce que tu voudras, le jeune, mais je t'ai quand même donné la chance d'avoir de l'ouvrage au village, puis avec Maddie encore enceinte, j'aurais vraiment besoin de ton aide. Et oublie pas, pour être second sur une barge, il faut quand même que tu sois propriétaire de tout ton gréement », avait-il exagéré. Émile s'était alors promis qu'il s'agissait de sa dernière saison à faire encore l'habillage des morues. Quand il eut fini de démêler les hameçons sur la ligne d'Omer, ce dernier le remercia en se dirigeant vers le bateau dans lequel il était accepté pour la journée. Depuis quelques saisons, le mari de Géraldine devait presque supplier les villageois de lui faire une place à leur côté.
« Merci, Émile. Je te dis que je donnerais cher pour avoir ta santé. Je te revaudrai ça, le jeune. »
Les deux garçons, Florian et Réginald de Gingras, ricanèrent en imitant le mari de Géraldine, qui ne se rendit compte de rien, trop heureux d'avoir évité cette tâche ingrate. Sous les cris et les applaudissements des terriens de la compagnie Robin et ceux des villageois, les barges s'éloignèrent les unes à la suite des autres dans la baie. Les anciens les regardèrent partir avec un peu de regret au fond du cœur. C'était peut-être des journées épuisantes, lança un vieux, mais si j'avais encore la forme, je recommencerais demain matin.
T'as bien raison, approuva Rosario, mais d'un autre côté, je m'ennuie pas trop de passer 12 heures au gros soleil de juillet.
Les hommes âgés se lancèrent des regards entendus. La pêche était un métier exigeant, difficile et qui, au final, rapportait bien peu. Mais quand on la vivait de père en fils, rien d'autre n'y était comparable. Quand les bateaux ne furent plus que des points distants sur l'océan, les femmes poussèrent un long soupir collectif. Certaines se réjouissaient de ne plus avoir leur mari dans les pattes, alors que d'autres appréhendaient une autre saison de dur labeur. Car les femmes de pêcheurs devaient s'occuper des poissons, en plus de faire fonctionner la maisonnée.
« Bon, bien, c'est parti !» lança Lucienne en se tournant vers le Mont-Sainte-Anne, faisant dos à la mer.
La courte femme rousse se dirigea prestement vers les vigneaux de sa famille pour s'assurer que tout le matériel était sur place. Couteaux, boîtes de sel, picquois. La plupart des villageois encore sur la plage de Galais l'imitèrent et rapidement tous déplacèrent les barils, les brouettes de bois ainsi que les caisses de sel. Quand les pêcheurs reviendraient à la fin de la journée, tous très fins prêts pour recevoir leur récolte quotidienne. Madeleine sourit à son bébé installé sur sa hanche et se retourna pour vérifier la position de sa grand-mère.
« On va y aller, Maddy! lui cria d'ailleurs cette dernière en prenant appui sur le bras de Rosario. Madeleine leva le pouce dans les airs et se dirigea sur le quai pour s'isoler un peu. Simone profita de l'éloignement de sa jumelle pour s'avancer et enlacer sa grand-mère. Madeleine, qui se retournait au même moment pour s'assurer que les deux vieux allaient bien, les observa avidement. Un large sourire apparut sur le visage de sa sœur quand sa grand-mère lui tapota le nez comme lorsqu'elle était enfant. Géraldine Veillette, qui était aussi enceinte, lança un coup d'œil vers Madeleine, qui se détourna vivement pour éviter un commentaire acerbe de la part de la grande blonde. Madeleine marcha lentement vers le bout du quai, en écoutant les clapotis de l'eau qui venait mourir sur le bois. Elle s'agenouilla en tenant son fils sur ses cuisses. « Écoute-moi bien, mon bébé, » chuchota-t-elle. « Ces sons-là vont t'accompagner toute ta vie. » Comme pour appuyer ses paroles, des sternes et de gros goélands se mirent à tournoyer en criant au-dessus d'eux. Arthur leva la tête en plissant son petit visage rond. « Oh, oh !» s'extasia le bébé en pointant les oiseaux blancs. Madeleine sourit avec douceur en caressant son ventre rond. Malgré une mélancolie toujours présente, sa vie auprès de Freddy la comblait. Au bout d'un moment, mal à l'aise dans sa position accroupie, elle décida de s'éloigner un peu et d'aller s'asseoir sur une caisse de bois renversée. Elle profita de la douceur du matin pour appuyer sa tête contre l'étale derrière son dos et respirer à fond l'embrun. La jeune femme avait l'impression d'être seule au monde avec son fils, et elle le déposa devant ses jambes repliées. « Que je t'aime, mon gros bébé d'amour !» chuchota-t-elle. Arthur tapa ses mains sur les planches de bois en riant. Satisfait d'être libre, il s'en alla aussitôt à quatre pattes sur le quai humide. Avec amour, Madeleine ne le quittait pas des yeux, tout en riant de le voir plisser son nez quand des gouttes d'eau virevoltaient jusqu'à lui. Chaque fois que sa mère la grippait pour le ramener vers elle, Arthur grognait son mécontentement. Au bout d'un moment, Madeleine le laissa avancer un peu plus loin, sans le quitter du regard. Il n'y avait aucun risque puisqu'Arthur longeait le mur en s'arrêtant de temps en temps pour se remettre sur les fesses et fixer les oiseaux qu'il survolait. De là où elle était installée, personne ne la voyait et Madeleine inspira avec aise. Depuis la noyade des lois, elle sentait toujours le malaise de certains villageois en sa présence. Les terriens de la compagnie Robin se déployèrent à l'autre bout de la plage de Galais sous la gouverne du maître de Grave. Pour tous ceux et celles qui travaillaient aux vignaux, c'était la dernière journée de congé. Après, il leur faudrait accomplir toutes les tâches afin qu'à la fin de la saison, les pêcheurs puissent vendre leur quinteau de morue à Gaston Taillefer. Tous espéraient que le marchand leur offre de meilleurs prix en échange de leurs poissons, même s'ils savaient que le contrôle appartenait à la compagnie Robin, qui fixait les tarifs offerts. La plupart des villageoises étaient remontées vers le village. Madeleine regarda l'heure sur sa montre et sourit à son bébé, qui fixait ses grands yeux bleus sur elle. « La paix, la sainte paix, mon Arthur. On va en profiter un peu parce que ton père va nous ramener bien de l'ouvrage dans quelques heures. Hein? » Les rayons du soleil faisaient miroiter l'eau du fleuve et Madeleine laissa sa main caresser le bois patiné du quai. Perdue dans ses pensées, son fils à une dizaine de pieds devant elle, la jeune femme n'avait pas envie de retourner à la maison. Commençant à trouver sa position inconfortable, elle avertit Arthur. « Là, mon tout petit, on va retourner. » Madeleine n'eut pas le temps de terminer sa phrase qu'un hurlement se fit entendre sur la plage. « Non !» hurla la voix reconnaissable de sa sœur. Alors que Madeleine plissait le front avec surprise et tentait de se relever maladroitement, une course rapide sur le quai interrompit son geste. Simone arriva à ses côtés sans réaliser que Madeleine était assise au niveau du sol et agrippait le bébé en pleurant. « Arthur! Oh, Arthur, ma tante est là! » s'exclama Simone en relevant le bébé et en le serrant contre son cœur, les larmes roulant sur ses joues pâles. D'abord estomaquée, Madeleine sortit de sa stupeur pour s'offusquer. « Voyons donc, qu'est-ce qui te prend, Simone? » demanda-t-elle en se relevant enfin. Sa jumelle, envahie par l'émotion, éclata en sanglots.
« Je pensais qu'il était tout seul. Oh mon doux, j'ai pensé qu'il allait tomber et disparaître lui aussi. »
Avant que Madeleine ne puisse réagir, trop secouée par l'état dans lequel Simone se trouvait, cette dernière s'avança pour déposer son fils dans ses bras. Puis, sans dire un mot, la femme s'éloigna en essuyant son visage d'une main rageuse.
Les villageois qui avaient été témoins de la scène se jetèrent tous un regard entendu. Simone la Violette se remettra jamais de la mort de son fils Éloi. À suivre.